Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes,
salut Charline.
Je considère pas comme un problème.
Tu vois, Charline, le problème avec ton mi bémol,
quoi
c'est qu'il est moins mi que bémol, c'est en fait.
Ça. Ah, bah je sais pas, je m'en rends pas compte.
Bah oui, mais ça, on avait bien senti que tu t'en rendais pas compte.
Elle vous a plu l'émission d'hier?
Non.
Comment ça?
Mais le coup des deux pianistes, la Manoukian, l'Ornac. Ouais.
Un peu lourd dans la partition.
On s'écoute, on se répond et on sait qu'on travaille dans une gamme qui va nous donner un chant dans lequel il n'y a pas de fausses notes possibles. Et puis à ce moment-là, bah, on peut jouer pendant des heures.
On peut jouer comme des heures. On s'écoute, on se répond.
Manoukian, s'il est aussi clair au piano que dans ses chroniques, moi je plains celui qui écoute.
Mais c'était tellement beau et puis il jouait tellement bien.
Et voilà le coup classique du musicien qui récupère les nanas. Bien
reconnaît au moins qu'ils ont le boulard quoi.
Maintenant je travaille avec des animateurs cultivés. Et là bon ça me change forcément.
Et voilà.
Mais il n'y a pas tort, c'est vrai qu'on n'est pas des puits de science.
Oh là là, c'est bon, l'hôtel boîte de piano elle leur passe tout, ça va.
Mais vous êtes comme ça avec les filles.
Non.
Nous on aime les filles direct. Quoi.
Voilà, comme Constance par exemple. Voilà.
Bonjour à tous, moi je vais vous parler de ma vulve.
On n'est pas dans je te joue des sonates.
Non, on est sur un terrain très glissant puis évidemment vous tomber dedans, alors.
Appuyez à plein d'endroits sur vos vulves, les filles. C'est hyper sympa.
On peut le faire sur les vulves
Non, c'est chacun sa vulve.
Il s'intéresse à la chronique et tu l'engueules.
Mais il a dragué Constance, enfin.
C'est comme toi avec les pianistes.
Mais vous jouez pas dans la même catégorie.
Mais si, on s'écoute, on se répond.
On sait qu'on travaille dans une gamme qui va nous donner un chant
dans lequel il n'y a pas de fausses notes possibles.
C'est ça, très drôle.
Et puis à ce moment, on peut jouer pendant des heures.
Mais si, bonjour la France Inter, nous sommes le mercredi 20 juin, journée mondiale des réfugiés, et en même temps, c'est l'anniversaire de Gérard Collomb. Le monde est bien fait.
L'anniversaire à Gérard Collomb.
Ouais, c'est vrai, et le menu de cette émission le prouve. Dans l'Amérique de Donald Trump, les enfants de clandestins sont arrachés à leurs parents pour être parqués derrière des grilles. Les gamins sont en pleurs, traumatisés. Heureusement, ils sont certainement très bien traités par les gardiens.
Quoi, t'as faim?
Oui.
Ah non, mais j'ai pas de goûter. Bah, mange du sable, t'adores ça.
Et quid du retour? La majorité des réfugiés rêvent de rentrer un jour au pays, qu'ils aient quitté la Nouvelle-Orléans ou la Syrie. La migration de retour est un processus long et compliqué.
Rentrez chez vous, les Noirs et les Bougnoules.
Et puis, il y a ceux qui migrent vers un environnement enchanteur. C'est ce qu'on appelle la migration de confort, comme les retraités qui s'installent en Floride ou dans le sud de la France. Et bien que plus nantis, ils ne sont pas forcément bien accueillis non plus.
Bah putain, si c'est ça les meufs cet été, merci et vive la France, hein.
Lui, il est tout comme moi un travailleur détaché et donc un immigré temporaire ou définitif, sait-on, c'est Alex Vizorek.
C'est vrai, bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, il y a une belle équipe.
Il y a une belle équipe.
Surtout aujourd'hui.
À 17h20, il a arrêté une belle carrière de chanteur pour devenir penseur universel et c'est triste. Beaucoup de gens regrettent son groupe, Pablo and the Red Newts. À 17h20, de quoi on va parler?
Salut Alex, salut Charline. Guillaume. Alors ce mardi 20 juin, vous l'avez dit Charline, c'est la journée mondiale des réfugiés, c'est l'anniversaire de Gérard Collomb, 186 ans aujourd'hui. Donc j'ai décidé de lui offrir un beau cadeau en détruisant les réfugiés pendant 4 longues minutes. A tout à l'heure.
Très beau, 17h30, il va tellement à la rencontre des gens là où il se trouve, il est plus qu'en marche, il est en marché. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
C'est magnifique, bonjour à tous, moi je suis allé inaugurer un H&M aujourd'hui sur les grands boulevards. Il y avait beaucoup de monde, peut-être même...
Carola Gerfeld.
Ouais, il y a de l'alcool aussi.
Et à 17h40, si on lui donnait le choix entre aller dîner avec moi ou devoir lire toute l'œuvre de Marcel Proust en braille en commençant par la fin, je pense qu'elle choisirait la deuxième solution. C'est vous, Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonsoir.
De quoi on va parler?
De haute tension.
Oh.
Et je me tourne vers celui qui bénéficie d'un visa pour entrer dans cet open space. Vous rédigez votre thèse de doctorat sur les migrations environnementales. Vous poursuivez vos recherches sous l'égide de l'université de Liège en Belgique et l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous enseignez les politiques d'environnement à Sciences Po Paris, Grenoble et à l'ULB, Université Libre de Bruxelles. Vous avez publié Géopolitique du climat et l'Atlas des migrations environnementales aux presses de Sciences Po. Vous avez été représentant belge à l'ONU et Benoît Hamon s'est inspiré de vos travaux pour construire son programme à la présidentielle, avec le résultat qu'on sait. Alors, vous a invité quand même. Vous êtes, je vous laisse nous le dire.
Vous êtes très triste.
Je suis François Chepène. Bonjour à tous.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
Bienvenue François Gémène.
Merci beaucoup.
Vous êtes donc, on peut dire, spécialiste des migrations climatiques, environnementales notamment.
Et... voilà, je travaille en fait sur les migrations et sur le climat, et puis sur la rencontre des deux, les migrations climatiques.
Voilà. Alors, je voudrais d'abord vous soumettre, comme nous sommes dans la journée mondiale des réfugiés, je suis tombée sur cette une de Ouest-France qui date du 22 juin 1979, à propos des boat people en Asie du Sud-Est. Et cette une m'a interpellée parce que on lit d'abord une citation en exergue qui dit « une sorte de solution finale » selon un médecin français. Le titre de la une, c'est « Entre ciel et eau, deux points, un crime ». Toujours à la une, il y a un petit encart qui dit « Va-t-on rester sans rien faire ? S'ils étaient blancs ou juifs, les laisserions-nous plus longtemps sans secours ?» Et enfin, il y a un petit encadré, un appel d'Ouest-France au président de la République, « Monsieur le Président, la gravité de la situation des réfugiés, etc. etc. La France n'a-t-elle pas un rôle prééminent à jouer ?» Ça y va fort, là. Est-ce que ça va pas... plus fort qu'aujourd'hui où on semblerait plus timoré bien qu'extrêmement indigné ?
Ça y va beaucoup plus fort. Et déjà à l'époque, ça y allait moins fort qu'en 1947, quand un bateau qui s'appelait l'Exodus 1947 amenait 4500 juifs réfugiés par, depuis la Seconde Guerre mondiale, les amenait vers la Palestine qui était à l'époque sous mandat britannique, et les Britanniques les renvoyaient vers l'Allemagne. Et c'est cette affaire de l'Exodus 1947 qui a notamment été décisive dans la création de l'État d'Israël en 1948 et puis dans la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. Et donc on voit qu'à l'époque, c'est une affaire de bateau...
d'un État syrien.
Une affaire de bateaux malmenés, ballottés de terre en terre, provoquait des réactions beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Évidemment, ces histoires rappellent le périple de l'Aquarius qu'on aura oublié vraisemblablement dans deux ou trois semaines.
Ah, ça veut dire qu'on s'habitue alors ?
On s'habitue terriblement. Moi, je suis frappé de voir comme toute une série de mots de vocabulaire ou de mesures qui étaient préconisées par l'extrême droite il y a 5 ou 10 ans. Et à l'époque, on disait « Oh là là, pas question d'employer ce vocabulaire, oh là là, pas question de mettre en place ce type de mesures. » Aujourd'hui, tout le monde en parle comme si c'était monnaie courante. La question de l'appel d'air, par exemple, qui est une sorte de fantasme de l'extrême droite il y a quelques années, aujourd'hui, tout le monde en parle à gauche et à droite. J'ai aucun doute quant au fait que d'ici un an ou deux, tout le monde parlera en France du grand remplacement, comme si c'était un truc normal.
Est-ce que veut dire que aussi le droit d'asile est menacé en Europe ?
Très clairement, plus que le droit d'asile, c'est globalement les droits de l'homme, les droits humains qui sont menacés un peu partout en Europe. On pensait que cette idée des droits de l'homme, de la démocratie allait se consolider constamment. Aujourd'hui, on sent que les bases sont de plus en plus fragiles. En Belgique, qui est quand même un pays cher à nos yeux, on a un ministre de l'immigration et de l'asile qui déclare l'objectif, c'est zéro droit d'asile en Belgique.
Mais qu'est-ce qu'on fait quand les gens ont voté pour eux ? Parce que c'est un choix de la majorité.
Bien entendu. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gouvernements populistes, extrémistes, nationalistes, autoritaires sont en train de devenir la majorité en Europe. Il y en a en Belgique, il y en a en Autriche, il y en a en Hongrie, il y en aura sans doute en Italie, bien sûr, il y en aura sans doute demain en Suède.
Et en Italie, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on n'a pas fait preuve de solidarité européenne et qu'ils ont accueilli quand même beaucoup de réfugiés et que comme on les a pas aidés, ça a causé des soucis qui ont fait que finalement l'extrême droite est au pouvoir. Ça se répond.
Notre réaction aujourd'hui face aux migrations, c'est de pas du tout considérer ça comme un phénomène structurel, mais d'être dans une logique de conjoncturelle, de problèmes à résoudre, de crises à gérer. Et donc on va essayer de résister aux migrations, de ne pas les voir et surtout de refiler le problème aux voisins. Et le résultat, c'est que ça crée le chaos aux frontières, ça crée une impression de crise et de submersion et des angoisses et des craintes chez les gens et surtout des gouvernements nationalistes et extrémistes.
Vous parliez d'habitude. Est-ce que dans le fait que les gouvernants qui ont cette optique-là ont été élus, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de repli sur soi ? C'est plus qu'une habitude, quand vous parliez d'habitude quand même de la part des peuples. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui est plus hostile aussi ?
Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va construire autant de murs et de barrières aux frontières. Il y a aujourd'hui plus de 40 000 kilomètres de frontières dans le monde qui sont murés ou clôturés, c'est pas des signaux qui sont envoyés à ceux qui sont de l'autre côté, c'est avant tout des signaux qui sont envoyés à ceux qui sont à l'intérieur de la frontière, et on va aujourd'hui définir une sorte d'identité collective autour de la frontière.
Alors il y a des gens qui construisent des ponts aussi, hein. Poutine, il vient de construire un pont avec la Crimée.
C'est un pont en opposant politique aussi.
Voilà. Ne nous laissons pas submerger par
les migrants.
Et donc, voilà, nous en rions un peu, parce que sinon, que voulez-vous qu'on fasse d'autre ? François Gémène est avec nous. On va parler, bien sûr, des réfugiés, des migrations, sous différentes formes. Avec François Gémène, qui nous explique les choses très, très, très bien. Donc, on va tout comprendre. Si ça se trouve, on va changer le monde.
C'est sûr.
Ah, c'est aujourd'hui. J'étais à la cool tranquille, ça se passe, sorti d'un rad. À la ramasse, le type a surgi dans la place. Sur un scooter façon Mad Max, puis il s'est approché de moi. Combat de regard, je le sentais pas. T'as le trois quarts, ma caille, c'est pas du sky. Moi je me les gèle sur mon booster, avec ça je serais un vrai rappeur. Alors ma gueule tu la ramènes, je vais t'apprendre à jouer à Tekken. Fous-moi ton cuir, je suis trop vénère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a mis un low kick, j'ai esquivé sourire. T'a enchaîné, retourné, je lui ai filé mon cuir. J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, sortais d'un rad, bouffé un grec, le type a surgi sur le boulevard. Dans un coupé, il était pas net, puis il s'est approché de moi. Combat de regard, je le sentais pas. Wesh, wesh, gosse beau, t'as sorti le fut à la cigale, c'est trop de la balle. Regarde comme il craint mon baggy, avec le tien, je serai un vrai MC. Viens faire un tour dans ma merco, je vais t'apprendre ce que c'est qu'un braco. Tu sais, je suis croque de ton streetwear, moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a fait une balayette, je lui ai mis un frontal, t'as enchaîné coup de tête, je lui ai filé mon futal. J'étais à la fraîche, je me faisais zizir, je buvais ma Rubix dans le RER. Les lascars ont surgi dans le wagon, ils étaient 15, c'était pas bon. Puis le pistocma s'approche de moi, combat de regard, je le sentais pas. Matt le kidam, il a les Air Max à Jordan. Alors blanc bec, t'aimes le basket? Bah on va wesh à ma façon. Je vais juste un peu changer les règles. On est des joueurs, toi t'es le ballon. Finis-nous tes pompes, enculé de ta mère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. M'en mis deux, trois que là. J'ai fait, ah ouais les mecs, t'ont sorti un pushka. J'ai filé mes baskets. La morale de cette pauvre histoire, c'est que quand t'es tranquille et peinard, il faut mieux rester dans les bars. Surtout quand tu commences à boire. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil en chaussettes, toi barre d'imagination pour inventer un bon remake.
Erwan, lâche l'affaire sur France Inter, 17h20. C'est François Gemène qui nous accompagne, qui est... Alors, comment peut-on vous qualifier? Vous êtes professeur à Sciences Po.
Oh, chercheur, c'est bien.
Chercheur en...
C'est encore alors, une profession qui jouit d'un bon crédit dans l'opinion. Donc,
dans les migrations et l'environnement. Et donc, un spécialiste des migrations environnementales, bien par sûr. La même occasion. D'ailleurs, vous publiez avec Dina Ionesco et Daria Moknacheva, Atlas des migrations environnementale, paru aux presses de Sciences Po, et je vous le recommande chaleureusement, et on va se baser dessus oui, il a déjà. Pour cette émission. Oui, bien sûr.
Moi,
vous l'avez bon, soit. Il y a qui pour entourer
François? Ça va mal dans le secteur de l'édition, mais ils ont quand même les moyens d'offrir un exemplaire du bouquin à l'auteur du bouquin.
De toute façon, vous avez le brouillon, vous en foutez.
Alors, pardon,
j'ai imprimé
pardon,
le PDF
Charlie.
Chez moi.
Il y a Pablo Mirail, il y a Guillaume Meurice et Clara Dupont-Moineau par ordre d'apparition et de préférence.
Oui, bah concentrez-vous, parce que là maintenant, c'est les informations.
Nous rétablirons l'état de droit, et en particulier dans
le journal de presque 17h17.
C'est de la gesticulation.
Et on commence par les titres.
Virée par Laurent Wauquiez, Virginie Calmel s'est interdite d'accès au siège de Les Républicains. Elle a retrouvé ses affaires dans un carton dans le hall d'accueil.
Et en même temps, s'il contenait tous les dossiers qu'elle avait initiés pour relancer Les Républicains, fallait pas faire appel à des déménageurs non plus.
Invité ce matin sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, Manuel Valls a maintenu le doute sur sa candidature à la mairie de Barcelone.
Ah non, Manu, mais non, faut se décider, hein, tu nous as fait rêver, mais non, t'y vas.
Et des brèves.
Oui, parce que malgré que vous les ayez mis dans un carton à la porte du bureau, j'ai récupéré mes brèves.
Mince, je vais les mettre à la cave. Commençons par les éphémérides.
Mais oui, nous sommes le 20 juin et c'est l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen et de Gérard Collomb.
Mais c'est aussi la journée mondiale des réfugiés.
Autant dire qu'en termes de hasard malheureux du calendrier, on est au niveau de l'anniversaire d'un diabétique qui tomberait le lundi de Pâques.
Sans transition, oui. Manuel Valls déclare que s'il était resté Premier ministre, il n'aurait pas non plus accueilli l'Aquarius.
Bah c'est cohérent parce que l'Aquarius c'est comme à Évry, ça manque de blanc, de white, de blancos.
Manuel Valls qui était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin.
Oui, et il a eu un début d'érection quand... Et
l'Europe ne veut plus, plaisant. Disons clairement les choses, Emmanuel Valls.
Il a appelé Emmanuel Macron, voilà. Ça c'est joué à rien.
Emmanuel Valls qui a déclaré ceci, l'Europe est un nain politique.
Et oui, il est bien placé ça pour parler de nain politique, Manu. Ouais,
attendez, il a été Premier ministre quand
oui,
même.
Oui, bah, d'ailleurs à l'époque on l'appelait ni passe-partout ni passe-temps, on l'appelait passe en force, Manu.
International, oui. Les États-Unis se retirent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ouais, c'est une nouvelle incroyable.
Moi ça m'a choqué, je savais même pas qu'ils en faisaient partie. Moi, c'est ça qui m'a ému.
Les USA qui sont redevenus le premier pays de demande d'asile dans l'OCDE en 2017.
Et, oui, et c'est là qu'on voit que les immigrés ne font pas de benchmarking, parce que c'est comme si des véganes cherchaient des places pour le salon de la charcuterie. tutrice, c'est con.
Revenons en France, oui. Salah Abdeslam, hospitalisé pour une crise d'appendicite.
Et oui, crise d'appendicite qu'il n'aurait jamais eu si sa ceinture avait explosé à l'époque.
Et il s'est fait opérer.
Oui, et ben c'est au moins une opération qu'il aura menée jusqu'au bout sans se défiler.
People, victime d'une double fracture au bras gauche, Charles Aznavour annule 5 nouvelles dates de concert prévues cet été.
Et Laurent Wauquiez ferait bien de s'en inspirer parce que lui, il s'est complètement brisé son bras droit, mais a priori, il va continuer à donner des spectacles.
Igor et Grishka Bogdanov ont passé la nuit en garde à vue. Ils sont soupçonnés de tentatives d'escroquerie.
Et oui, une fois en cellule, ils ont dit tirer une gueule de 6 pieds de long.
C'est surtout la justice française qui est vraiment très lente.
C'est vrai que ça fait 20 ans qu'ils se font passer pour des scientifiques. C'était la grosse escroquerie.
Cinéma, à présent, le deuxième opus de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu devrait sortir en salle début 2019.
Oui, et qui j'espère répondra à cette question, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter un deuxième opus.
Allez, une brève.
Une brève, mieux que ça, le démenti d'une brève. Hier, on m'avait envoyé un lien sur l'annonce d'un jumelage entre la ville de Montéton avec une ville de Meurthe-et-Moselle, Messin.
Non, et bah, c'était faux.
C'était faux. Oh. C'était faux. Ce matin, le maire de la commune du Lot-et-Garonne a démenti, ce qui a attristé les internautes qui s'étaient bien amusés et qui avaient d'ailleurs même demandé que l'acte officiel soit signé à la Silicon Valley.
Oh, joli.
C'est une blague de Twitto. Je le félicite.
Merci Alex Vizorek. En compagnie de François Gémen, chercheur dans les migrations et l'environnement, on va partir aux États-Unis où les enfants de clandestins sont séparés de leurs parents et parqués dans un centre de rétention. La chaîne Fox News se fait la voix de cette politique en affirmant que les enfants sont des acteurs pleurnichards. Et la journaliste Laura Ingraham, quant à elle, décrit ces centres de rétention pour jeunes migrants comme une colonie de vacances. Voilà, voilà, on en est là. Alors un petit message pour les enfants.
Soit un démon, qu'il soit noir ou blanc. Il a le cœur pur, il est tout innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident. Malheur à celui qui blesse un enfant.
C'est une belle chanson, c'est une belle chanson. Je l'ai écrite,
oui,
je regarde les enfants, je l'ai écrite, ça m'a ému.
Alors, la Maison Blanche a décidé de poursuivre au pénal tous les clandestins qui franchissent illégalement la frontière, ce qui pousse à la séparation des familles, les enfants ne pouvant pas être incarcérés. Et les précédents gouvernements avaient privilégié des poursuites aux civils, ce qui évitait ce genre de situation. François Gémen, vous qui êtes chercheur dans ce secteur des migrations, des réfugiés, que Donald Trump soit complètement allumé et qu'il parque les enfants séparés de leur famille, c'est déjà horrible. Et Fox News qui rajoute et entérine... Ça veut dire que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça y est, ça passe, maintenant c'est décomplexé, et donc on va vers ce monde-là.
Non, soyons clairs, moi je ne nous donne pas 2 ans avant qu'on se sépare aussi en France et en Europe les enfants de leurs parents. Aujourd'hui on va faire des quais de débarquement en Tunisie ou en Albanie, j'ai aucun doute quant au fait que d'ici 2 ou 3 ans, on se séparera aussi.
Il y a déjà des enfants en détention en France.
On enferme déjà les enfants en France. L'an dernier, en 2017, on a enfermé 305 enfants en France métropolitaine, 4285 enfants à Mayotte. Et donc, c'est déjà quelque chose qu'on fait en France, en Belgique, dans d'autres pays européens. On ne les sépare pas encore de leurs parents, mais j'ai aucun doute quant au fait que ça va arriver. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée de séparer les enfants de leurs parents, en fait, c'est une stratégie électorale soufflée à Trump par son conseiller stratégique, qui s'appelle Stephen Miller, il a 32 ans le gars, c'est une sorte de Machiavel moderne. Et donc son plan, c'est de dire, on va diviser l'opinion publique américaine, 2/3 des Américains sont contre cette séparation. Ce qui est un peu flippant, c'est qu'il y a quand même 1/3 des Américains qui restent pour cette séparation, qui soutiennent cette politique. Et donc l'idée, c'est de dire, on va diviser l'opinion américaine, et donc au final... Les gens vont voter au mid-term pour celui qui incarnera la stabilité par rapport à un pays divisé, c'est-à-dire le président. Et donc, cette décision n'a rien à voir avec de la politique migratoire, c'est juste de la stratégie électorale machiavélique, comme un peu partout en Europe, où on a aujourd'hui cette sorte de partie de ping-pong avec l'Aquarius sur le dos des migrants. Il faut dire que les migrants, ils ne votent pas, ils ne manifestent pas.
Et quand vous parlez de stratégie électorale, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon aussi pour Trump de faire une espèce de chantage contre les démocrates, puisque de leur faire porter la responsabilité en quelque sorte de ça, puisque la loi immigration va être débattue bientôt, elle est débattue depuis des mois, et du coup il y a un petit côté chez Trump de dire aux démocrates, ah ben vous voyez bien avec le bazar que vous mettez, etc., voilà ce que ça donne.
C'est la stratégie de Trump sur tous les sujets, sur le climat, sur le budget, c'est l'idée de pointer les démocrates, pointer l'inactivité du Congrès, de dire je suis le seul à agir dans ce pays et tous les autres sont des politiciens de bas étage qui se chamaillent et donc votez pour moi puisque j'incarne l'autorité et la stabilité.
François Gémen, votre boulot de chercheur, est-ce qu'il a évolué ces derniers temps? Parce que comme on voit qu'on franchit des paliers de jour en jour sur ces questions et qu'elle est centrale dans le débat, est-ce que par exemple vous en tant que chercheur vous avez été obligé aussi de prendre position et que qu'il y a une forme d'énervement qui fait que votre métier change et que vous prenez la parole plus souvent, ce genre de choses?
Il y a plusieurs choses qui ont changé. D'abord, je bois plus qu'avant.
ça, pour vous détendre.
Et puis surtout, il y a une nécessité effectivement d'engagement dans le débat public beaucoup plus importante qu'avant. Et il y a aussi un terrible constat, c'est celui de l'incapacité du chercheur à influencer le débat public aujourd'hui. On a l'impression, sur l'immigration en tout cas, que tous les faits, que tous les chiffres, que toutes les études n'ont plus aucune influence sur le débat public, qui est devenu strictement idéologique. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu comme si on parlait dans le désert. Mm-hmm. Il y a quelque chose d'assez désespérant. C'est assez différent, en fait, quand on travaille sur le climat et sur l'immigration. Sur le climat, on a encore l'impression que les rapports scientifiques, les alertes des scientifiques peuvent un peu guider le débat public et certaines politiques. Sur l'immigration, pas du tout. Les chiffres paraissent, les rapports paraissent, et ça reste la parole politique qui guide le débat public.
Vous dites d'ailleurs que ça a été une faiblesse de Benoît Hamon, c'est de s'être basé sur des travaux universitaires et d'être proche de ces travaux-là, plutôt que d'être dans un vocabulaire outrancier et dans...
Je pense malheureusement qu'une faiblesse, et c'est terrible à dire, qu'une faiblesse de la campagne de Benoît Hamon, c'est d'essayer d'avoir fait une campagne intelligente qui parlait à l'intelligence des gens plutôt qu'à leurs émotions. Et voilà. Malheureusement, de plus en plus, il faut parler aux émotions des gens plutôt qu'à leurs raisons.
Ça a payé, mais ça ne paye
pourquoi
plus.
Pourquoi vous ne l'aviez pas rappelé qu'il était en France ou qu'il est belge?
Mais c'est vrai que je crois que c'était tout. Mais c'est vrai, on se rend compte que là aussi, la parole du chercheur n'a pas beaucoup d'influence sur les politiques.
Les Belges se mêlent de tout, c'est énorme. François Gémen, avec nous.
Mais il faut dire, j'étais le seul membre de sa campagne qui n'avait pas le droit de voter pour lui, donc forcément, c'était un peu mal barré.
Allez, il est 17h30 sur France Inter. Il est l'heure de passer la parole à celui qui sera la vedette du prochain numéro de l'émission Rendez-vous en racisme inconnu. C'est vous, Pablo.
Oui. D'ailleurs, vous pourrez m'y voir stigmatisé la tribu des Chipayas en Bolivie. Ils ont des frisbees dans les lèvres et tout, c'est génial.
Donc Pablo, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, vous nous parlez du défi migratoire que doivent affronter aujourd'hui les pays occidentaux.
Oui Charline, on vient de l'évoquer, c'est simple. Italie, États-Unis, Allemagne, France, plusieurs grandes nations mondiales viennent donc d'entamer le rat migrant. C'est comme le ramadan, sauf qu'au lieu d'arrêter de manger, on arrête de sauver des êtres humains pendant un mois. Un moment convivial où les pays riches font comprendre aux migrants qu'ils ne sont plus les bienvenus et qu'ils doivent retourner vivre chez eux en étrangie ou au pauvristan, que sais-je. Alors je dis migrant, mais on m'a expliqué qu'il fallait plutôt dire réfugié, le mot réfugié. Du coup, moi, j'ai longuement hésité entre les deux termes et j'ai finalement décidé d'utiliser le mot criminel, Charline. Et désormais, à propos de ces criminels migrants, le constat est clair, on ne peut plus accueillir toute la misère du monde. L'Europe n'est pas une émission de confession de Faustine Bollard. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder quelques chiffres pour s'en convaincre. Depuis 2013, j'ai un chiffre sous les yeux, voilà, 690 000 migrants, principalement issus d'Afrique subsaharienne, ont accosté sur les côtes italiennes. Un chiffre terrible quand on voit chaque soir sur W9 quels dégâts 10 Marseillais peuvent faire en allant en Australie, tout simplement. Alors, autre info intéressante, en moyenne, un réfugié vit 17 ans en exil dans son pays d'accueil. 17 ans. Alors, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire qu'il reste en gros 9 longues années à tirer avant que Charline et Alex ne retournent sur la RTBF. Vous voyez, c'est peut-être triste tout ça, mais quand matériellement, on ne peut plus loger des réfugiés, alors il faut reconduire ces réfugiés à la mort, à la mer, Alex. Pardon, à la mer. À chaque fois, ma langue a failli dire ce que je pensais. Désolé. En réalité, la clé, c'est que les migrants doivent comprendre enfin que leur arrivée chez nous est vécue, au fond, comme une profonde injustice. Je veux dire, est-ce que nous, Européens, on va en Afrique pour profiter des richesses de ce continent? Eh ben non, et pourquoi? Parce que la Chine et les États-Unis nous ont grillé la politesse, ils sont malins, eux. Alors, pour tenter de les défendre, les ONG nous disent que les migrants veulent simplement survivre. Et ben voilà, vous voyez, ils ne peuvent pas juste vivre, non. Ces messieurs-dames veulent survivre. Vous voyez, c'est ça le problème avec les gens qui n'ont rien. Ils veulent toujours plus. Tiens, restons un peu aussi sur les ONG qui sont complices de cette vague migratoire, il faut le dire. Car on... Moi, je n'ai peur de rien aujourd'hui. Je n'ai peur de rien. Anniversaire de Gérard, je tente tout.
Puisque... Le chantre de l'Asie.
Puisqu'on a l'impression on a l'impression que la principale mission des ONG aujourd'hui, c'est de caricaturer la situation. On l'a vu ces derniers jours lorsqu'elles affirment, les ONG, que les traitements des États-Unis envers les enfants latinos, qui sont donc séparés de leurs parents et enfermés dans des cages, sont inhumains, ces traitements. Alors que, vous l'avez évoqué, Charline, comme l'a expliqué Laura Ingraham, journaliste sur Fox News, ces camps sont comme des colonies de vacances, voilà, sans colonies et sans vacances. Oui, ça n'a aucun rapport, en fait, autant pour moi. Autre exagération des ONG en Italie, cette fois où là, les ONG vont jusqu'à, écoutez bien, comparer le gouvernement
au régime de Mussolini. Et là, moi, je dis stop. Avec ce nouveau gouvernement anti-immigration, l'Italie n'est pas retournée à l'époque des années 30 ou 40, parce qu'au moins dans ces années-là, l'Italie participait à la Coupe du Monde de football. Allez, vous savez quoi, tiens, c'est le moment de passer au Miramétri. Charline, vous nous rappelez la question du jour, s'il vous plaît, pour le Miramétri.
Oui, à la question, êtes-vous favorable à accueillir des migrants qui viendront voler votre travail, coucher avec vos femmes et escalader vos immeubles? Vous êtes 95% à répondre bof, pas trop. Et les 5% restants trouvent votre question trop orientée, Pablo, mais comme ils sont racistes, ils refusent aussi de les accueillir.
Ouais, sondage réalisé, bien entendu, sous contrôle d'un huissier de justice radié du barreau depuis 10 ans déjà, Alex. Pour conclure, oui, c'est terrible ce qui arrive aux migrants, aux réfugiés. Mais tous ces demandeurs d'asile doivent comprendre qu'avant de pouvoir les aider, la France doit régler ses problèmes les plus importants. Et là, le plus urgent, je crois, à l'heure actuelle, pour tous les Français, c'est de savoir de qui, de Griezmann ou de Giroud jouera dans l'axe demain face au Pérou. C'est le plus important, Alex. Désolé.
À qui le dites-vous ?
Merci, Pablo Mira. Pendant votre chronique, Fox News a appelé. Vous êtes engagé, paraît-il.
CDI,
Il va falloir quitter Banners actuels pour Fox News. Et Pablo, on vous retrouve à Avignon cet été ?
Oui, chapeau d'ébène.
Ouais.
Très bon théâtre que connaît Alex Vizorek.
Il va faire de la thune encore, ce Pablo.
C'est l'anniversaire à GG Colomb et c'est la journée mondiale des réfugiés. Alors nous recevons François Gemmen, spécialiste des migrations et de l'environnement et des migrations environnementales. À venir Guillaume pour nous parler fringues fabriquées au Bangladesh.
Exactement.
Et Clara Dupont-Mono. Shannon Shaw, Broke My Own sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. François Gemmen est dans notre compagnie. Il est chercheur, il est prof à Sciences Po. Il publie Atlas des migrations environnementales aux presses de Sciences Po. On vous le recommande chaleureusement. On va baser nos deux prochains sujets sur cet ouvrage. Et une petite question avant d'écouter Guillaume Meurice. Vous dites notamment la France est le seul pays qui se définit par sa forme géométrique. Ça veut vraiment dire quelque chose un peu dans le mental?
Ça fait 10 ans que j'habite en France et je suis très frappé de toute une série de trucs que les Français ne remarquent plus. On dit l'hexagone pour parler de la France qui est un peu méprisant.
plaisant pour les territoires d'outre-mer. Ouais. En Belgique, on ne dirait jamais le triangle.
Ouais. Par contre, l'Italie, on dit la botte, et là, ça n'a jamais été aussi vrai.
C'est vrai. mais c'est assez révélateur du rapport d'un pays à ses frontières, je crois, quand il se définit par sa forme géométrique. Un autre truc qui me frappe, c'est l'omniprésence de drapeaux français dans la rue. Il y a parfois des coins de rue où il y a une hampe de drapeau et un drapeau français qui est sur aucun bâtiment officiel. Dans plein d'autres pays, j'ai jamais vu des drapeaux comme ça au milieu de la rue.
Et enfin, la Belgique a quand même la forme d'un cerveau. Et elle est posée où? Sur la France.
Ah,
17h35.
C'est honteux.
Françoise Amédée. On va passer à Guillaume Meurice. Ça sera meilleur.
Non, mais pas de chronique aujourd'hui. Je vais vous faire une petite publicité. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on a de la pub commerciale sur cette antenne. On a eu une pub pour Engie juste avant, le vendeur de gaz qui a encore des usines à charbon. Il y en a une pour Ikea qui paye pas leurs impôts en France. Ça vaut bien le coup de prendre la présentation de la Louise Michel de la Louvière. Hein, c'est franchement loupé. Heureusement qu'on a le Hugh Grant Discount de chez Bolloré. Au moins, c'est plus cohérent, ça compense.
Il est prolongé, il reste chez
Bolloré. Et il est prolongé en plus, et il est fier de lui.
Je vais pouvoir faire un an de moquerie.
Alors, foutu pour foutu, je vais vous parler d'H&M aujourd'hui, avec l'ouverture d'un nouveau magasin ce matin sur les grands boulevards. 5000 mètres carrés sur 6 étages, en face des galeries Lafayette. Je vais vous dire, ça claque, hein. C'est pas un bar à chicha à Béziers. Alors, moi, je suis arrivé en milieu de matinée, c'était pas encore ouvert, mais il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue en attendant. Des gens qui étaient là depuis?
Bah, depuis 7 heures.
7 heures ce matin?
Ouais. Après, ils sont arrivés avant moi et tout. Donc,
vous êtes arrivés à quelle heure, vous?
6h30.
Et ça ouvre à
11h.
Voilà, 4h30 d'attente. Hein, on est bien pour des fringues que tu pourrais acheter au hall, hein, à 800 mètres. C'est top. Sous le soleil, en plus. Autant dire qu'ils étaient tous desséchés. On aurait dit, en fait, une file d'attente de Gérard Collomb, du consommateur lyophilisé. Mais alors, je vais vous dire, il y a mieux que ces Français.
Bah, il y a des Allemandes qui ont dormi ici et qui sont venues avant nous, du coup.
Les Allemandes ont carrément dormi devant le H&M.
Devant le H&M, elles sont arrivées hier. Mais je pensais pas que ça allait être des Allemands, non plus on s'est fait battre à domicile.
Putain, mais c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est une tradition française de se faire niquer par les Allemands, bordel? Ce soit la guerre, le foot, H&M, on pompe tout le temps. L'Europe, ça a bien 5 minutes, mais bon, si à chaque fois qu'on a le dos tourné, ils nous piquent la place ou ils remplacent des Panzers par une monnaie unique, on va avoir du mal à faire l'Europe. Hein, niveau confiance, on est mal. Alors on n'est pas là pour s'énerver, on est là pour faire de la pub pour H&M. On y trouve donc des gammes variées, notamment pour les plus jeunes.
Ouais, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de jolies petites choses. Hier, j'ai vu qu'il y avait des petites salopettes qui sont trop mignonnes, il y en a une qui est en forme de lapin. Enfin, j'adore.
Et en plus, c'est certainement fabriqué par des enfants.
C'est possible. Juste que voilà, ça vient de Taïwan, de Bangladesh. Mais après, je n'ai pas de détails sur le reste.
C'est pratique, c'est fabriqué par des enfants pour des enfants.
Faut leur demander.
Oui, alors j'ai essayé de demander aux organisateurs de H&M, mais vous savez comment sont les services de com. Hein. Ils sont toujours très, très discrets, très timides. Pourtant, c'est un bon slogan, voilà. Par les enfants, pour les enfants. Ou pour des pauvres, par des encore plus pauvres. Voilà, moi j'ai des idées de slogans. C'est ça qu'on aime. Et on aime quoi d'autre?
Bah, le fait que ce soit toujours à la pointe de la tendance, le fait qu'il y ait énormément de choix pour tous les styles et que ce soit hyper polyvalent.
On m'a dit que ça tenait pas plus de 2 ou 3 lavages.
Mais justement, ça permet de changer fréquemment de vêtements pour les gens qui adorent acheter.
Alors voilà, ouais. Si votre passion c'est de dépenser du pognon, allez chez H&M. En revanche, si votre passion c'est les lessives, oubliez tout de suite. Si Teddy Riner lave un t-shirt, quand il ressort, c'est pour Frédéric Fromet. Je tiens quand même à le préciser. Mais l'important c'est pas ça, l'important c'est d'acheter.
En fait, mon dressing il est pas possible en fait. C'est
Par exemple, combien de pantalons?
Pantalons, je pense que c'est pas le pire, c'est vraiment les t-shirts. Je pense que je peux.
Combien de t-shirts alors?
Ah, mais je pense que je peux tenir un an sans faire de lessive avec mes t-shirts.
Alors, plus de 365 t-shirts.
Ouais, peut-être même plus, non, ouais, moi,
on a 400 t-shirts. Avec 400 t-shirts, c'est sûr que si on peut pas les laver, bah, vaut mieux en avoir en avance. Hein. C'est ça qui est cool avec H&M. Et ce qui est cool aussi avec H&M, c'est que ceux qui ont passé donc toute la matinée à faire la queue, ils sont pas venus pour rien, ils avaient droit à un bon d'achat. Ah bah, ouais. Ça c'est hyper sympa. 20 balles! Waouh! Wow, hey, sur l'échelle du foutage de gueule, on est pas mal. On est entre la carrière de Manuel Valls et celle de Thomas Sisley. On est sur un gros niveau de foutage de gueule. Heureusement, chez H&M, c'est pas cher.
C'est pas cher, mais je crois que ce magasin-là va devenir très cher parce qu'on est au Galeries Lafayette.
Ah ouais?
On est au Galeries Lafayette.
Oui, ils vous ont un peu arnaqué, là.
De toute façon, c'est au bon vouloir. Hein. Écoutez.
Oui, c'est, on ne vous a pas forcé à venir. Vous êtes fait arnaquer avec votre consentement.
Oui.
Et oui, et c'est le principe de la pub. Voilà, vous faire croire que vous avez un libre arbitre. Parce que si on vous disait buvez de force ce produit qui débouche des chiottes, vous diriez non. Fasciste, c'est pas Charlie. Mais si on vous disait Always Coca-Cola, là vous allez acheter, hein, des packs de 12. C'est bien foutu, c'est la pub. Achetez, achetez, encore achetez.
On n'a jamais assez. Et puis il faut renouveler les fringues, il faut renouveler, c'est l'été.
Ah oui, mais vous avez les habits de l'été de l'année dernière, non?
Oui, mais il faudra en racheter encore d'autres neuves, mieux, et puis à la mode.
Mais ça veut dire quoi, être à la mode?
Comment dirais-je? Avoir les tenues qui vont avec le temps.
Mais qui décide de ce qui est à la mode ou pas?
Mais qui décide? Eh ben, c'est les magasins.
Ah, mais c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ficelé, cette histoire. Hein. La pub crée le besoin, les magasins répondent aux besoins. Bref, le capitalisme fait ses besoins. On est dans la merde jusqu'au cou, ne baissons pas la tête.
Merci Guillaume Meurice qui pousse la logique jusqu'à ce qu'on devienne complètement con, parce qu'on est complètement con. C'est prouvé, donc merci Guillaume. Nous sommes toujours en compagnie de François Gémen, chercheur, et voici cet autre sujet avant d'entendre Clara Dupont-Mono. Quid du retour des réfugiés? Ça, on en parle beaucoup moins. La plupart aspirent à rentrer un jour, ça pourrait même être une garantie de paix. Vous me direz, l'Europe est déjà incapable d'accueillir, alors faut même pas demander où en est la question du retour.
500 cases break chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilel, la PCR, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu d'art, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai...
Tonton du bled. Alors il y a une tribune dans Libération aujourd'hui.
Il est peut-être rentré chez lui parce qu'on l'entend plus trop. <C'est vrai. rire>
Tribune dans Libération, signée Paul Sils, vice-directeur de l'Institut Européen pour la Paix, qui dit « Pas de paix sans le retour des réfugiés syriens ». Le retour, c'est une des questions aussi dans votre atlas des migrations environnementales. La migration de retour, est-ce que c'est nécessaire et aussi compliqué que l'accueil, François Gémen?
C'est sûr que c'est l'idéal si les gens peuvent rentrer chez eux une fois que la situation est apaisée. Malheureusement, ça se produit dans une minorité de cas. Et donc, l'autre solution qui est recommandée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est qu'ils soient accueillis dans le pays d'accueil. Le problème, c'est que le pays d'accueil n'a souvent pas les moyens de les accueillir, parce que 85% des réfugiés dans le monde sont accueillis dans des pays du Sud. On a l'impression que l'Europe en fait des tonnes et des tonnes pour accueillir les réfugiés. En fait, on fait rien du tout. On accueille 6 ou 7% des réfugiés du monde. 85% sont accueillis dans des pays qui sont déjà très pauvres. Et donc, la réalité, c'est qu'ils sont souvent parqués dans des camps immenses. C'est pour ça que le Haut Commissariat aux réfugiés recommande une troisième solution dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'ils soient accueillis dans un pays tiers. Ils demandent aux pays européens, aux États-Unis, au Canada, à la Nouvelle-Zélande, d'accueillir leur part des réfugiés. Mmh. Et là, il faut bien dire que la plupart des pays font quasiment rien. Il y a la Suède qui s'est un peu motivée pour en faire. La France a accueilli quelques centaines, quelques milliers de personnes. Mais globalement, aujourd'hui, la réalité, c'est que personne ne veut des réfugiés et que donc ils sont parqués dans des camps, généralement dans des pays en développement.
Il y a cette espèce de mythe de « mais si on trouvait la solution là-bas, ils n'auraient pas envie de venir ici ». Est-ce que on aide à ça? Est-ce qu'on envoie de l'argent? Est-ce qu'on trouve des solutions là-bas parce que, pour pas qu'ils restent justement dans ces fameux parcs?
Le gros problème, c'est que ce qui motive les gens à fuir, c'est soit de sauver leur vie quand ils sont menacés, quand ils sont sous les bombes ou quand ils sont quand leur vie est en danger, soit qu'il y ait des inégalités, soit économiques, soit politiques, soit environnementales, tellement grandes qu'ils les décident à partir. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent de migrer. Et que donc, si on envoie de l'argent pour aider les pays du Sud, et aujourd'hui, beaucoup de gens bien intentionnés disent « Ah là là, si on aidait davantage les pays du Sud, les gens ne partiraient pas ». Le problème, c'est que tant que les inégalités demeuraient, ben les gens auraient plus d'argent, plus de ressources, et donc vraisemblablement migreraient plus facilement. Plus un pays se développe, plus sa propension à l'immigration, c'est-à-dire plus la part de la population qui veut migrer, a tendance à augmenter. Et donc, c'est un problème très délicat. Aujourd'hui, il faut considérer que l'immigration, c'est devenu un phénomène structurel, et que ça sert à rien de vouloir essayer de résister ou empêcher l'immigration. La réalité, c'est qu'ils sont là, et que le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer de les organiser au mieux.
Guillaume.
Et qu'est-ce que vous pensez du mouvement des no-borders, ceux qui militent? Alors c'est un peu utopique, c'est un peu... Ça paraît en tout cas.
Moi je pense sincèrement que la solution la plus rationnelle et la plus pragmatique face au défi des migrations au XXIe siècle, c'est d'ouvrir les frontières. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est un tabou politique absolu et que personne n'ose le dire. Et que n'importe quel politicien qui proposerait cette solution, ce serait un suicide politique. Et donc j'ai plein d'hommes politiques et de femmes politiques qui me disent « Vous savez, à titre personnel, je suis parfaitement d'accord avec vous, je trouve aussi que c'est un droit fondamental, mais vous savez bien que je ne peux pas le dire en public. » C'est une défaite très grave
pour
la démocratie.
Pour quelle raison ils ne peuvent pas le dire en public? Pour quelle raison un tabou en
réalité? Parce que les gens aujourd'hui sont convaincus que les frontières, c'est le moyen de contrôle des migrations. Et que donc les gens migrent parce qu'une frontière est ouverte et que si on ferme la frontière, les gens vont arrêter de migrer. La réalité, c'est que la migration, c'est un projet tellement important, tellement nécessaire, que les gens vont pas se décider à migrer juste parce qu'ils sont dit « Oh tiens, l'Allemagne a ouvert sa frontière, on y va les gars ». De la même manière que les gens qui sont à Calais, par exemple, pour le moment, alors que la frontière avec l'Angleterre est complètement fermée, mais ils savent bien qu'ils la franchiront un jour et ils resteront là jusqu'à ce qu'ils la franchissent. Et donc, les gens s'imaginent que si on ouvrait les frontières, tout le monde viendrait, que ça serait le chaos absolu, alors que toutes les études montrent que c'est pas ça qui détermine les migrations. Simplement, ça les rend plus chères, plus dangereuses et malheureusement plus meurtrières.
François Gemène, les migrations de retour, c'est aussi un chapitre dans l'Atlas des migrations environnementales. Vous expliquez notamment qu'après l'ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans a perdu un quart de sa population, qui sans doute ne reviendra pas parce que traumatisée, parce que les dégâts, etc. Et que.
Et plus parce qu'on est plus de 13 ans après maintenant.
Oui. Et qu'il y a une migration d'Amérique centrale pour la reconstruction qui revient. Il y a aussi l'exemple de l'Irak, où même si un jour le retour devenait possible, la sécheresse, la dégradation des ressources rendait le retour difficile. Et voilà pour la jonction entre vos deux domaines de recherche, la migration et l'environnement.
Mais maintenant que l'Italie va bien, on peut renvoyer Eric Ciotti. Hein. Il va être heureux là-bas.
On va parler aussi de la migration des plus nantis, la migration de confort, comme on dit. Et avant, allons vers le large de la littérature avec Clara Dupont-Mono.
Oui, Chaline, parce que l'actualité, c'est aussi l'annonce par Nicolas Hulot d'un plan anti-sargasse de 10 millions d'euros. Anti-sargasse, mais qu'est-ce que c'est? Je le vois écrit dans vos yeux. Eh bien, les sargasses sont des algues...
Oui, on est complètement con.
Mais c'est pas du tout, je ne le savais pas. Les sargasses sont des algues assez obstinées et assez nauséabondes qui ont la fâcheuse habitude de pousser sur les rivages des Caraïbes, ainsi que sur le cerveau de Guillaume Meurice, tout au bord. Mais ceci est une autre histoire. Et je voudrais dire là que si Nicolas Hulot décide de s'attaquer à des périls écologiques, si d'aventure ça lui passait par l'esprit, au cas où il y aura un peu de temps un peu à donner, eh bien, il devrait lire un roman qui vient de paraître et qui s'appelle « Très haute tension » de Lionel Daudet. Alors, ne vous fiez pas à la couverture, François, puisque ça montre un homme en train de sauter dans le vide et qu'il s'agit donc de femmes et de pylônes électriques. Donc, il y a un problème, c'est l'histoire raconte des femmes et des pylônes électriques. Et l'histoire s'enracine dans une vallée, en plus, il n'y a pas du tout de vide, une vallée qui s'appelle la Haute-Durance, dans les Hautes-Alpes. Est-ce que vous connaissez cette région? Est-ce qu'elle a pas
très bien, j'avoue. Ah,
parce qu'elle a été point de passage des migrants aussi.
Bien sûr. Alors, elle
continue de l'être. Et c'est une région qui a été longtemps à part dans notre histoire nationale, avec le Briançonnais, avec le Queyras. Les Hautes-Alpes ont eu une espèce de fonctionnement autonome pendant assez longtemps, sans parler du charme assez sauvage de l'endroit. Quand même, si je résume, inclassable, à part et charme sauvage, on dirait que je parle de l'émission. Un petit peu quand même. Nous sommes, oui, nous
pour
sommes
les... ou d'Alex Vizorek. Mais,
non, ah, non de l'émission. De l'émission.
Allez, restez concentrés.
Mais non, mais Charline, nous sommes les Hautes-Alpes des ondes. Hein, il faut le dire. Et d'ailleurs, encore un parallèle, comme cette émission, cette région attire les passionnés. Bon, et ben parmi eux se trouve une femme nommée Karen, qui, pour le dire assez vite, elle est casse-cou. Alors. Pardon Charline, mais enfin, là où vous et moi, nous avons un emploi du temps assez calibré, avec un quota de sommeil assez précis, eh bien Karen, elle, fait ses bagages et part escalader les parois givrées en Alaska ou en Patagonie. Et si les conditions météo sont pourries et très dangereuses, pour elle, c'est beaucoup mieux. Alors, entre deux expéditions, je cite, « repue de ses orgies de maîtres verticaux », elle se ressource donc dans ses Hautes-Alpes. Et puis c'est là qu'un jour, en rentrant d'un de ses périples, elle s'aperçoit que de très grands pylônes électriques assez hideux ont surgi de terre, dans la vallée de la Haute-Durance, là où elle habite, lacérant toute la beauté des lieux. Donc il y a des camions, il y a des hélicoptères, dedans en plus il y a son meilleur ami qui la mord dans l'âme, exécute le boulot, il y a des pelleteuses, ça porte un nom, ça s'appelle un carnage. Karen est un peu affolée, elle se renseigne, et en fait ce sont des lignes à haute tension qu'installe une filiale d'EDF, sous prétexte que la vallée aurait besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, sous prétexte qu'il faut donc consommer encore plus, et d'ailleurs les élus locaux ont tous signé pour. Enterrer tous les rapports des spécialistes qui disent « attention, ça va ruiner la montagne ». Je cite « tu te heurtes invariablement à la nucléocratie avec son opacité, son totalitarisme ». Alors vous l'entendez avec cette petite phrase que je viens de vous citer, il y a là quelques accents militants clairement affichés, mais le militantisme, c'est le vrai sujet de ce livre. On le voit naître, on le suit, on le vit avec justement Karen. Et elle découvre cette phrase de Martin Luther King, « Une émeute est le langage de ceux qu'on n'écoute pas ». Magnifique phrase d'ailleurs. Ouais. Et elle passe à l'action. Et nous voici, nous lecteurs, du côté des zadistes, du côté des Black Blocs, dont elle reprend le mode opératoire.
Ça va vous surprendre, ça, non?
Non, mais ça m'intéresse, figurez-vous. Objectif, faire tomber les pylônes. Alors, il y a quand même un petit problème, je cite, « Contrairement aux Italiens, aux Corses, aux Basques ou aux Bretons, les Hauts-Alpins n'ont pas une longue tradition de lutte », nous dit Lionel Daudet. Ça signifie aussi que Karen, elle est assez seule. Et là se pose une question que le romancier dissèque, qui est « Où commence la radicalité ?» Même pour une cause juste, entre guillemets, à quel moment s'opère le point de bascule vers l'illégalité. Et de façon générale d'ailleurs, est-ce que la contestation peut se dissocier de la violence et du répréhensible ? On a tous pressenti ça. Quand quelque chose nous paraît injuste, tellement injuste que ça nous transperce, et là, on lève certaines barrières morales et on peut devenir brutal. Mais le fait que Lionel Daudet habite réellement la Haute-Durance et qu'il y ait réellement des lignes à haute tension qui fendent sa vallée, dit quand même une autre chose, c'est que parfois, au lieu de plastiquer un pylône, on écrit un livre. C'est exactement ce qu'il a fait. Et comme quoi, la littérature est parfois la seule bombe qui vaille. Je vous redonne les références. Très haute tension de Lionel Daudet est paru chez Stock.
Merci Clara Dupont-Monod.
Ça n'empêche pas de plastiquer quand même les pylônes, hein, si vous êtes sur place.
François Gémène avec nous, chercheur dans les migrations et l'environnement. Et nous allons aborder ce dernier sujet sur les riches qui ont aussi le droit de migrer. Ne les oublions pas. Il existe une migration de confort, partir s'installer sous des cieux plus cléments. Et puis il y a les classes moyennes qui saturent, voire étouffent certaines villes touristiques comme Venise ou Barcelone. Et puis il y a la migration de... Ça je l'ai déjà dit, migration de confort, oui c'est ça. François Gémène. Rapidement pour conclure, avant de passer au sketch, autrement dit, quand il y a un bel environnement, un ensoleillement, des conditions favorables, quand on a un peu de moyens, on se précipite dessus en masse pour en profiter et le ruiner, c'est un peu ça ?
Il y a même un terme scientifique pour ça, ça s'appelle l'héliotropisme, le fait d'être attiré par le soleil, et c'est comme ça que des régions voient leur démographie changer complètement, c'est comme ça que les retraités américains se sont déplacés en masse vers la Floride, c'est comme ça que la Floride est devenue plus conservatrice, c'est comme ça que George Bush a été élu en 2000.
Ah bah voilà, alors c'est QFD. Hein.
Et donc il va y avoir un retour, c'est-à-dire qu'à un moment les riches retraités vont aller habiter en Tunisie, au Maroc.
Et la grande question c'est de savoir comment le changement climatique va aussi transformer tout ça. Et il est clair que dans les années à venir, certaines régions du monde vont devenir littéralement inhabitables et que donc il y aura sans doute, encore une fois, de plus grandes inégalités entre ceux qui pourront quelque part être partout chez eux, c'est-à-dire qui auront les moyens d'aller à l'endroit le moins exposé et le plus ensoleillé où les conditions seront les plus favorables, et ceux qui n'auront d'autre choix que de rester coincés chez eux. On parle beaucoup d'immigration, on oublie aussi beaucoup que le changement climatique contraint beaucoup de gens à rester chez eux et donc à affronter directement les impacts du changement climatique et aussi l'immobilité forcée.
Et oui, et dans votre atlas des migrations environnementales, vous expliquez aussi que les autorités sibériennes arguent des futurs impacts positifs du changement climatique pour envisager de transformer la région en une grande plaine céréalière.
Bien sûr, c'est un des arguments. Vladimir Poutine a dit ça à plusieurs reprises. Vous savez pourquoi est-ce qu'on va se tracasser du changement climatique? Ça sera tout bénéfice pour la Russie.
Avec un parc aquatique.
Et voilà. Rions un peu, François Gémène.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. On vous donne directement le rôle d'Emmanuel Macron, qui a préparé une petite fête pour son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui est Guillaume Meurice. Et dans le gâteau, il y a une petite surprise. On se rend tout de suite à l'Élysée.
Joyeux anniversaire, Gérard. Joyeux anniversaire.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est Marlène Schiappa qui est sortie du gâteau en chantant.
Moi, gâteux?
Non! Enfin, si, mais Marlène vous souhaite un joyeux anniversaire!
Ah bon, vous trouvez qu'il est joyeux, Castaner?
Mon pauvre Gérard!
Eh oui, la vieillesse est un naufrage!
Un naufrage! Ah, c'est l'Aquarius, ça c'est bien, super!
Calme-toi, mon Gégé!
À la flotte, les migrants!
Alors, plutôt que la flotte, si on débouchait le champagne pour tout tes. Quel âge il a?
Je dirais 112 ans!
Seulement? Ah, c'est marrant, j'aurais dit plus!
Et où sont mes cadeaux?
Ah, je t'ai apporté mon livre, Si souvent éloigné de vous!
Ah, j'aime bien le titre, ça me rappelle un Syrien que j'ai refoulé dans son pays.
Et les membres du gouvernement ont déposé plein d'autres cadeaux pour toi.
Ah, c'est quoi ce truc, là?
Une photoportrait de Jacques Mézard.
Jacques qui?
Jacques Mézard, enfin, le ministre de la cohésion des territoires.
Connais pas.
Non, c'est toute la valeur du cadeau. Vous voilà seul en France à connaître le visage de Jacques Mézard.
Et toi, tu m'offres quoi, Manu?
Non, non, non.
Pardon?
Tu es là dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut.
Ah, j'ai bavé.
Tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui tu m'appelles Monsieur le Président de la République.
Oui, d'accord, Monsieur le Président de la République, oui.
Très bien, voilà mon cadeau.
Ah, c'est de la vaisselle?
Le nouveau service étant arrivé, j'ai immédiatement pensé à toi.
Ah bah, tu m'étonnes.
Mais pourquoi que des assiettes à soupe?
Parce que quand je te vois, je me dis que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes.
Ah, ça oui, je suis encore souple.
Merci François Gémen.
Avec plaisir.
Qui se révèle excellent comédien.
Mais oui,
très bon comédien.
En plus d'être chercheur.
On a eu des comédiens qui étaient des moins bons chercheurs.
Et on ne l'a pas répété. Hein.
C'est vrai, professeur à Sciences Po Paris, Grenoble, à l'Université Libre de Bruxelles. Chercheur dans les migrations et l'environnement, et donc les migrations environnementales également. Et je rappelle donc cet atlas des migrations environnementales avec Dina Ionesco et Daria Moknacheva, paru aux presses de Sciences Po et que je vous recommande. Merci les amis, merci Clara Dupont-Mono.
Il n'y a pas de mal.
Merci Pablo Mira, merci Guillaume,
merci,
Alex,
oui,
François Gémen.
Merci beaucoup et joyeux anniversaire au ministre de l'Intérieur.
Mais bien oui, sûr. C'était une formidable émission dédicacée à Gérard, c'était formidable. On se retrouve demain avec les ex-ouvrières de l'usine Samsonite à Hénin-Beaumont qui vont monter sur scène à Avignon. Et voici le mot de la fin qui célèbre donc cette belle journée mondiale des réfugiés.
Ils viennent jusque dans nos bras, écraser nos fils et nos compagnes.